Il n'y a pas juste le tramway. Il y a bien sûr une bébelle à Montréal qu'on paye très, très cher et qu'on paiera longtemps, longtemps, longtemps. C'est le REM et Michel Morin nous en parle. Michel Morin, bon retour dans Morin Live. Comment ça va?
Ça va très bien, vous-même.
Très bien. Et les gens sont surpris de t'entendre, disent « On a hâte qu'il revienne, Michel. C'était l'un des meilleurs. »
Hein? Une fois n'est pas coutume.
Une fois n'est pas coutume. Et peut-être que tu vas revêtir l'uniforme de Morin Live à nouveau un jour. Sait-on jamais, hein, Michel?
Sait-on jamais.
OK, Michel, je te laisse aller. Explique-nous ce que les médias nous ont pas dit concernant le REM, les coûts, le projet, ce que la vérificatrice générale en a dit. Débroussaille-nous un peu plus ce dossier-là ce matin.
Parfait. Alors, je vous laisse le soin d'intervenir si c'est pas clair. Écoutez, en fin de semaine, là, on a eu un véritable concert d'éloges pour ce REM du tronçon Deux-Montagnes centre-ville de Montréal, qu'on a inauguré en grande pompe. Mais, si vous avez bien remarqué, la plupart des médias, sinon tous, n'ont pas parlé que depuis 5 ans, les gens de Deux-Montagnes sont privés d'un service de train qu'ils avaient auparavant. Personne n'a parlé de ça. Et surtout, personne n'a parlé du coût de ce projet-là qu'on a financé avec la caisse de dépôt. Personne ne se souvient qu'on a accordé à la caisse de dépôt un rendement de 8% à perpétuité. Je répète, à perpétuité. C'est unique dans le monde. Un financement aussi élevé de 8%, s'il vous plaît, garanti. Moi, j'ai présenté un mémoire en septembre 2016 aux audiences du BAP, et j'avais démontré à l'époque, devant la Caisse de dépôt, devant les commissaires, j'avais été le seul à soulever ça, à dire, écoutez, pourquoi on donnerait, à l'époque on parlait d'11%, pourquoi on donnerait 11% à la Caisse de dépôt alors qu'on pourrait financer ce projet-là à moins de 3%, le gouvernement du Québec, sur le marché obligataire. Je ne comprenais pas. Il faut comprendre, Dominique, que entre 3 et 8 ou 11 % c'est des centaines de millions de plus par année qu'on va verser à perpétuité à la caisse de dépôt. Il y a quelqu'un qui
Michel,
va
le verser. Qui va le verser? Comment ça marche? L'argent vient de où, là? La caisse s'accorde un rendement de 8 % à perpétuité. Est-ce la plus-value des édifices qui jouxtent la traque de chemin de fer, comme on dit? Comment ça marche?
Ben, justement, c'est pas un chef-d'œuvre de transparence. Parce que ce montant qu'on va donner à la caisse de dépôt, qu'on a commencé à dépôt, à donner à la caisse de dépôt, les gens de Montréal en savent déjà quelque chose. Vous savez que les automobilistes de la région de Montréal paient maintenant 150 $ par année, pour le REM en particulier. Mais il y a plusieurs sources de financement. Bien sûr, il y a les usagers du transport public, il y a les contribuables, parce que les municipalités sont embarquées dans cette histoire-là, il y a la RPM et il y a le gouvernement provincial. On va voir qu'est-ce qui va se passer au cours des prochaines années, voire des prochains mois. Parce que le 150 $ auquel je viens de faire allusion, ce sera peut-être bientôt 200 $, peut-être 300 $, avec la mise en marche de ce nouveau tronçon des Deux-Montagnes centre-ville. On ne sait pas exactement comment ça va financer.
Et le REM va aller à l'aéroport en 2027, etc., dans le West Island aussi. Oui.
Alors donc, je ne sais pas, mais éventuellement, les gens de la Côte-de-Beaupré, de la Rive-Sud, vont peut-être financer le REM de Montréal. ils ne l'utiliseront jamais de leur vie, mais ils vont passer aussi à la caisse. C'est inévitable que le gouvernement du Québec, parce que là, ça risque de provoquer une véritable révolution des contribuables. Imaginez si le montant de 150 $ actuellement passe à 300 $ avec justement l'ouverture de nouveaux tronçons des deux montagnes et de l'aéroport. Parce que, pour bien comprendre que le système de financement qu'on a accordé à la Caisse de dépôt par contrat, il faut que ça se paye. Il faut que ça se paye quelque part. Et moi, à l'époque, j'avais démontré, avec des financements, par exemple, des aéroports de Gatwick en Angleterre ou de Heathrow, j'avais démontré que ces projets de financement se finançaient à 4 %, pas à 8 %, pas à 11 %. La Caisse, mon cher Dominique, j'en sais quelque chose, et c'est maintenant largement documenté, est un mauvais investisseur. Ils ne savent pas acheter des actions, ils ne savent pas acheter des obligations, et il se trouve que la Caisse de dépôt, si on compare, par exemple, à Homer's en Ontario, oui, au fond, à la Caisse
Teachers.
Au fonds de pension du Canada, à Teachers, sont toujours derrière.
Tout le temps.
Et pour eux, ce projet-là, c'est d'or en bas. Parce qu'on leur garantit 8 %. Mais 8 %, là, la bourse ne fait pas ça sur le long terme. Il n'y a personne qui fait 8 % sur le long terme. Ils ont diminué à 8 %, heureusement, mais c'est entre 100 et 200 millions de plus par année que si on avait financé sur le marché obligataire.
Mais c'est une arnaque.
Avec 100 millions puis 200 millions par année.
Mais c'est une arnaque. Le rendement, on va le chercher dans les poches des conducteurs. Tu sais, oui, le rendement à la bourse, ce sont des compagnies qui performent, qui déposent des bilans qui sont performants. Et à ce moment-là, ça devient des valeurs. Ça devient des valeurs qu'on va se procurer sur les marchés, le marché obligataire ou le marché des actions, très certainement, que ce soit à Toronto, à New York, que ce soit dans le Nasdaq ou dans le marché régulier, le Dow Jones. T'sais, c'est ça l'histoire. Mais oui, eux, le rendement, c'est carrément une perception à la source, les plaques et les permis de conduire du monde.
Et c'est garanti.
Ben oui, c'est garanti. À moins que les gens vendent deux chars.
Oui. Vous me demandez, mais d'où va venir? Écoutez, c'est difficile d'établir tellement il y a de sources de financement. Combien ça nous coûte, ce là, et quel est l'impact? Les gens ne se posent pas la question. Voyez-vous, on justifie ça par on va amener plus de fluidité à Montréal. On va lutter contre l'émission des CO2. Ben, je vous dirais simplement que les gens devraient se poser la question. Moi, est-ce que je vais en profiter? Est-ce que j'aurai toujours besoin de mon automobile pour aller à la garderie, pour aller à mon lieu de travail parce qu'il n'y aura pas une connexion directe avec le REM? C'est ce genre de questions que les gens ne se posent pas quand on leur présente un projet comme ça. Je vais vous donner une question qu'on pourra éventuellement, sans doute, à laquelle on pourra sans doute répondre éventuellement. Il y avait, aux deux montagnes, on a oublié ça à travers les années, là, depuis 5 ans que les gens sont privés de leur train électrique entre deux montagnes et le centre-ville. C'était le premier train électrique au Canada.
Oui.
Fonctionnait très bien, ce train-là. Ils l'ont plus. Alors, on verra au fur et à mesure du projet quelle différence, combien de passagers sur ce tronçon vont prendre le REM comparativement au train électrique. Vous savez, à l'époque, il y a un seul parti politique qui a levé la main, qui a dit « ça ne fonctionne pas, ce projet-là ». C'était le Parti québécois sous la direction de Jean-François Lisée. Un, ce qu'il prévoyait, il avait redéployé, si vous voulez, le système du REM, et ils avaient conservé intégralement la ligne, le tronçon du train électrique des deux montagnes.
Qui existait déjà dans le tunnel, qui existait déjà.
et qui n'auraient pas nécessité d'agrandissement et qui fonctionnaient très bien. Les gens étaient heureux de ce train-là. Ils en sont privés, ils en ont été privés pendant 5 ans. Au passage, je vous mets au défi, Dominique, de me trouver un seul endroit à travers le monde où, pour une tronçon existant, on a privé les gens avec un nouvel, disons, un nouveau train de service pendant 5 ans. C'est bien ce qui est arrivé au tronçon des deux montagnes. Les gens étaient privés de service pendant 5 ans pour une ligne qui était la plus utilisée dans la région de Montréal. C'est ce qu'on a fait. Et ça, c'était sous la commande de la Caisse de dépôt et de placement qui voulait un nouveau système électrique et qui voulait surtout justifier ses revenus. Vous savez, la Caisse de dépôt a fait un contrat blindé pour s'assurer que tous les voies d'autres modes de transport soient dirigées vers et seulement vers le REM. C'est vrai sur la rive sud, c'est vrai sur la rive nord, et c'est dans le contrat qui est confidentiel. Moi, à l'époque, là, j'ai essayé de sensibiliser les municipalités. J'ai fait je ne sais pas combien d'appels à Laval, à Saint-Julien, à Boucherville, pour leur dire aux politiciens, avez-vous regardé ce contrat-là? Voyez-vous les impacts que ça va avoir sur vos propres finances municipales? Est-ce que vos citoyens seront bien desservis par ce REM-là? J'ai pas réussi.
Autre chose qu'on devrait fouiller aussi, Michel, si tu permets, c'est la filière Alstom. Le consortium appelé Groupe des partenaires pour la mobilité des Montréalais, mené par Alstom, a signé un contrat avec la SQ, la CDPQ Infra pour la fourniture de matériel roulant, la signalisation et l'exploitation et la maintenance. Pendant 30 ans, Alstom fournit des rames Metropolis, le système de contrôle sans conducteur. Alstom aussi est dans la co-entreprise d'opération et de maintenance Pulsar, dont on parle ce matin dans les médias, sur 30 ans. Donc, est-ce que c'est pas là, justement, le poteau rose, c'est-à-dire nourrir le bébé qu'on a acheté et le maintenir à flot en lui donnant des contrats, même
mais bien
si...
sûr, oui. Mais bien sûr, tout ça fonctionne.
Je vais t'entendre là-dessus.
Mais dans la main, comprenez-vous, oui. Tous les fournisseurs, avec la Caisse de dépôt, qui est garantie d'un rendement, c'est facile de signer des ententes puis d'avoir une cote-part pour Alstom, d'avoir une cote-part pour les autres, souvent sans soumission. C'est très facile d'organiser tout ça, mais tout ça part du 8%, mon cher Dominique.
Moi, à vie.
À vie, à perpétuité. Moi, j'ai essayé d'intéresser la vérificatrice générale. Personnellement, vous savez que j'étais probablement le seul journaliste au Québec, le seul à déclencher 2 enquêtes de la vérificatrice générale du Québec. Je vous en souvenez sans doute pas, mais les gros perçus d'Hydro-Québec d'1,5 milliard, oui. Là, c'est moi qui ai dénoncé ça et ça n'a jamais été remboursé aux Québécois.
Non, on n'a jamais récupéré ça. Legault l'avait promis, Michel, tu t'en souviens, mais il l'a jamais fait.
Legault l'avait promis, mais ça n'a jamais été remboursé, d'aucune manière. Alors, donc, M. Legault avait parlé à l'époque, si vous vous souvenez bien, d'un vol en pleine Assemblée nationale. Oui. Un autre dossier que j'avais dénoncé, c'était les fameux parcs éoliens de l'époque. Ben, les parcs éoliens, la vérificatrice générale m'a aussi donné raison, comme elle m'a donné raison sur les trop perçus. Ben, les parcs éoliens, pour simplement un rappel historique, là, ça a fait augmenter les tarifs de tous les Québécois. Calculer le nombre d'années depuis les années 2016-2017, ça fait augmenter les tarifs d'électricité des gens de 10%. Prenez votre facture d'électricité, là, et dites-vous que depuis 10 ans, vos tarifs ont augmenté de 10% à cause des parcs éoliens. Alors donc, je présumais que, compte tenu du succès que j'avais obtenu avec les trop perçus et les parcs éoliens, que la Caisse de dépôt allait se pencher sur... Pas la Caisse de dépôt, pardon, la vérificatrice générale allait se pencher sur ce dossier-là, qui n'avait aucun sens, ce rendement de 8%. Ben, là, j'ai essayé plusieurs fois, alors, fournissant toutes sortes de chiffres, parce que j'avais fait une étude assez approfondie de ça, Et puis, la vérificatrice générale n'a jamais bougé. Pourquoi? Probablement, c'est mon hypothèse, ils ne me l'ont jamais dit, ils ne me l'ont jamais confirmé, mais probablement que tout ça est de nature confidentielle, toute l'armature qui justifie le 8%, et donc la vérificatrice générale qui a théoriquement un rôle de transparence avec les contribuables, ben c'est pas acquitté de sa tâche. Alors, on en est là à ce moment.
On en est là. Dernière question. À la lumière de ça, et à la lumière du fait que CDPQ, Infra, la Caisse, là, finalement, le volet Infra de la Caisse, est derrière le tramway. Et sachant très bien que le fédéral n'a pas l'argent, Lightbound est venu nous dire, le ministre est quand même responsable de ce dossier-là, la semaine passée à Québec a dit, ce n'est pas attaché, le financement n'est pas attaché. Mais ici, on continue en malade de faire des expropriations, même de restaurants flambant neufs qu'on va fermer. On va mettre le bulldozer dedans pour un tramway qui n'existe pas. Mais est-ce à dire qu'il faudra être très vigilant et très prudent, Michel, dans ce dossier-là?
C'est le moins qu'on puisse dire. Évidemment, l'architecture à Québec est différente avec des participations identifiées, théoriquement, du fédéral, du provincial.
Oui, mais c'est Infra qui gère ça pareil, avec un train qui va rouler à 20
km/h. Est-ce que ça va tenir la route?
Ben, c'est ça.
Est-ce que ça va tenir la route? Et au final, est-ce que les usagers y trouveront leur compte. Quand je parle des usagers, pas juste des usagers du transport public.
Les automobilistes.
Mais les automobilistes. Exact. Est-ce que les automobilistes, là, vont vraiment avoir une amélioration?
Zéro.
Parce que c'est eux qui vont payer en partie, là. Est-ce qu'ils vont avoir une amélioration avec l'implantation d'un tramway à Québec? C'est la question, parce que c'est toujours comme ça qu'on justifie, hein, avec le CO2, la fluidité. Mais est-ce que vraiment, là, si tout le monde se pose lui-même la question, là, vous avez le droit de vous poser la question, Dominique. Vous avez le droit, chacun, chez vous, dans votre automobile, comme propriétaire d'une maison, de vous poser la question, est-ce que ce service-là me sera utile? Je pense que tout projet de transport collectif, on c'est souvent un peu de la poudre aux yeux, surtout dans des villes où il n'y a pas une intensité du trafic, comme à New York, par exemple.
Mon cher Michel, les gens redemandent du Michel Morin. Ils veulent savoir. Un jour, on aimerait ça que tu reviennes. Peut-être bientôt, hein? Peut-être un beau cadeau pour 2026, Michel?
On verra.
On verra. Ben ça, Jean Charest nous disait ça aussi. On verra. Beaucoup de policiers nous disent ça. Mon cher Michel, ça a été juste parfait. Et les gens saluent ton feu sacré. Trop de jeunes journalistes n'ont pas ce feu sacré-là que toi, tu entretiens. Merci encore, Michel, de nous garder allumés. Merci, ciao.
Et bonne continuation.
Salut, bye.
Au revoir.
La poudre aux yeux. Eh oui, c'est ça qu'on a, de la poudre aux yeux, avec un train-train qui va rouler à 20 km/h. Est-ce qu'il y aura un gain net? François Bourque avait fait un Christy de bon papier. On va lui donner, il y a plusieurs années de
ça. Portland.
Oui.
Oregon, je me rappelle bien. Oh, oui.
Et ici, il avait regardé le calcul du gain net pour quelqu'un qui vient travailler à la colline parlementaire. C'est zéro gain net.
Ah, ça,
la
oui,
bombe parlait de ça. Le
oui.
gain net.
Les gain
il
n'y
aura pas de gain net.
Ah, non. C'est, il va y avoir 30 000 voitures de moins sur la route.
Non,
il l'a promis,
ça,
il l'a dit.
Non,
c'est des vrais chiffres.
Aussi,
je les crois, moi. C'est des vrais chiffres. Je veux 30 000 voitures de moins sur la route.
Très, très bon.